Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis, le professeur Frédéric Abney.
Bonjour Frédéric Abney.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous compte tenu de la charge et de la pression qui pèse sur vos épaules. J'ajoute que vous avez publié en octobre dernier Les Fantassins de la République aux éditions Flammarion, un livre dans lequel vous décrivez le tsunami que vous avez vécu à l'hôpital. Hier, Martin Hirsch, le directeur général de l'APHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, vous a adressé un courrier à tous les directeurs d'hôpitaux alertant sur une situation pire qu'il y a un an. C'est ce que vous vivez, professeur, une situation pire qu'il y a un an?
Bah écoutez, hier, j'étais dans mon service aux urgences et j'ai cru me retrouver un an en arrière. Hein. Les patients qui ont le Covid occupaient pratiquement les deux tiers des box d'examen, des patients plus jeunes que la première vague, et ça, je confirme, hein, c'est cette impression qu'on avait eue, mais qui est confirmée par les chiffres, et que j'ai revu des patients plus jeunes, avec le même tableau, des patients qui n'arrivent pas à respirer, des patients qui sont essoufflés, qui manquent d'oxygène. Et c'est une situation, effectivement, qui me rappelle cette crise qui nous a tous traumatisés, hein, moi, les soignants, qui nous a marqués durablement. Eh ben, on a l'impression qu'on revit la même chose avec un hôpital qui est plein, qui a du mal à absorber ces patients qui arrivent dans mes urgences, parce qu'après, il faut bien sûr que je les hospitalise, que je leur donne de l'oxygène. Certains vont aller en réanimation, donc on va être obligé de les transférer parce que nos réanimations sont pleines, trouver de nouveaux lits. On revit, si vous voulez, cet épisode traumatisant de la première.
Exactement. On va y revenir juste simplement. La Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus touché aujourd'hui.
Ben là aussi, on revit la même situation. Hein. Il y a un an, la Seine-Saint-Denis était le premier département le plus touché de l'Île-de-France après l'Est. Là, l'Est est relativement épargné. Et cette fois-ci, ben, il y a une espèce d'axe nord-est-sud-ouest dans l'Île-de-France. Et la Seine-Saint-Denis, effectivement, le département le plus touché.
Pourquoi
avec... Ben écoutez, on a beaucoup réfléchi à ce problème. Pourquoi la Seine-Saint-Denis est plus touchée que les autres départements? Alors, il y a probablement un problème de densité de population. La Seine-Saint-Denis est un département extrêmement dense. Et il y a aussi un problème d'épidémiologie. Les conditions de vie en Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France. Donc, les conditions de vie, la promiscuité est extrêmement importante. Mais aussi, il y a aussi un facteur professionnel. Les professions en Seine-Saint-Denis, ce sont pas le télétravail. Ce sont des professions en contact avec le public. Les caissières, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de métro, souvent sont issus de la Seine-Saint-Denis. Et c'est toutes des professions à risque, car au contact avec du public.
Pour revenir à votre hôpital, l'hôpital Avicenne, est-ce que vous dites aujourd'hui, nous sommes saturés, complètement saturés?
Ah, on est complètement saturé.
Plus de place.
On est complètement saturé.
En réanimation.
Il n'y a plus de place en réanimation. Et l'on va essayer d'ouvrir de nouveaux lits. Les lits, on les a. Les respirateurs, on les a. Les surfaces, on les a. Le facteur limitant, c'est trouver du personnel spécialisé pour ouvrir ces nouveaux lits.
Alors, vous allez appeler des renforts d'autres régions?
Alors là, c'est une grande différence par rapport à la première vague. Toute la France est impactée et on a très peu de renforts de l'extérieur. Donc, on va faire appel à des renforts qui viennent des écoles d'infirmiers spécialisées, comme les infirmiers anesthésistes, mais surtout déprogrammer, aller chercher du personnel dans d'autres services qui n'hospitalisent pas les Covid, et en premier lieu, la chirurgie. Parce que en chirurgie, dans les blocs opératoires, il y a tout le personnel spécialisé pour venir renforcer les réanimations.
C'est combien environ le pourcentage de déprogrammation chez vous?
Alors pour l'instant, on est sur 30-40%, mais on nous demande effectivement, si la situation empire, d'augmenter cette déprogrammation. Évidemment sur de la chirurgie non urgente, sur la chirurgie non cancéreuse, c'est-à-dire les cancers, c'est quand même une urgence en termes de chirurgie. Mais effectivement, il va falloir déprogrammer toutes les interventions non urgentes qui ont été programmées, qui peuvent se déprogrammer.
Vous triez les malades?
On n'est pas arrivé à ce choix qui est horrible pour un médecin, qui serait de dire pour celui-là on va le faire réanimer, celui-là on va pas le réanimer. C'est ce qui est arrivé à nos collègues italiens lors de la première vague, souvenez-vous. Et ça a été un espèce de traumatisme qu'on a vécu un peu par procuration, parce qu'on a vu ce qui se passait en Italie. On a pensé que ça n'arrivait pas en France. Ce n'est pas arrivé en France et on espère qu'on va éviter quand même ce choix éthique qui serait terrible pour un médecin.
On a appris il y a quelques jours que beaucoup de familles s'opposaient au transfert de malades. Est-ce que vous en organisez quand même des transferts?
Alors, on a essayé un petit peu de faire ces évacuations sanitaires. Il faut un véritable alignement des planètes pour qu'un patient puisse être transféré en province. Il faut qu'il obéisse à des critères médicaux. Il doit être stable pendant le transfert. Il ne doit pas s'aggraver. Des critères de logistique. Il ne faut pas que le patient soit trop lourd parce qu'il y a des phases de brancardage un peu délicates. Il faut que les deux services de départ et d'accueil soient d'accord. Et il faut, bien sûr, l'accord et le consentement des familles. Et c'est vrai que ça a été un facteur bloquant qui nous a empêchés, si vous voulez, de faire des évacuations de masse. Donc vous voyez que cette bouffée d'oxygène qu'on a pu bénéficier en première vague, on ne peut pas en bénéficier, nous, parce qu'effectivement, et on peut les comprendre, les familles s'opposent au transfert des patients.
Professeur Frédéric Adnet, combien de temps vous pouvez tenir là, comme ça? Et est-ce que c'était écrit?
Alors, ce n'est pas écrit. Par contre, on essaye de se préparer, on essaye d'anticiper à l'accueil de ces nouveaux patients et on fonctionne par paliers. C'est-à-dire qu'on a plusieurs paliers où on va déprogrammer de plus en plus pour ouvrir des nouveaux lits de réanimation. Donc, on va augmenter nos capacités d'accueil. Le seul problème, c'est qu'on connaît ni la cinétique de cette troisième vague et surtout ni l'ampleur de ce nouveau pic.
Oui, vous ne vous dites pas ça va craquer?
Ben c'est ce qu'on s'était dit lors de la première vague, qu'on était, si vous voulez, aux avant-postes, un peu comme des soldats dans la guerre 14-18 dans les tranchées, et on savait que si on tenait pas, l'hôpital s'écroulait. On revient dans cette configuration-là, on va se battre de toutes nos forces et on va tenir, on va faire notre job. Les patients vont être soignés, il faut pas non plus affoler le public, on va soigner les patients, mais c'est sûr qu'il va falloir faire une politique assez dure de déprogrammation pour pouvoir accueillir ces nouveaux patients.
Oui, parce que c'est des patients, est-ce qu'ils restent plus longtemps hospitalisés et en réa, et ils sont plus jeunes avec des formes plus graves?
Alors, ce variant anglais est plus transmissible et les premières études montrent qu'il fait plus de formes graves. On a plus de patients jeunes, très probablement parce qu'on a bien vacciné les patients très âgés, les patients qui étaient dans les EHPAD, etc. Donc, on ne les voit plus. Par contre, et donc ça a déplacé le curseur, si vous voulez, vers les patients plus jeunes. Et on voit beaucoup, beaucoup de formes jeunes actuellement, alors qu'on en voyait très peu lors de la première vague.
Professeur Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a proposé d'avancer les vacances de Pâques de 15 jours, soit le 2 avril au lieu du 17 pour ce qui est de la région. Ça, c'est une idée?
Alors, c'est une idée. Vous savez, c'est très polémique. Le rôle des écoles dans la propagation de cette épidémie, je lis bien la littérature, elle est très controversée. Il y a autant d'études qui vous disent que les enfants et l'école a un rôle important dans la propagation du virus, mais vous avez autant d'études qui disent l'inverse. Et il y a aussi beaucoup d'études qui disent que d'arrêter l'école, c'est catastrophique en termes sociétal, en termes d'inégalité de chance, en termes d'échecs scolaires. Donc, il y a quand même des conséquences extrêmement importantes, et je pense que l'école, c'est le dernier rempart, c'est la dernière chose qu'il faut faire, mais s'il faut le faire, il faut le faire. Alors avancer les vacances de 15 jours, oui, ça peut être une bonne idée. Bon, il faut y réfléchir, Moi, je ne suis pas à la tête du gouvernement pour savoir quelles seraient les conséquences d'avancer l'école.
Mais ça vous permettrait de respirer un peu?
Encore une fois, je ne sais pas si vraiment l'école est un vrai moteur sur l'amplification de cette épidémie. Encore une fois, quand je vois la position des sociétés savantes de pédiatrie, c'est plutôt l'inverse. Ils sont vent debout contre la fermeture des écoles. Ils pensent que... pour appuyer leur position, ils ont une littérature qui dit que non, finalement, les enfants se contaminent à la maison, peut-être à la cantine, peut-être pendant les repas familiaux, mais à l'école elle-même, elle ne serait pas forcément très amplificateur de cette épidémie.
Nous sommes là dans un entre-deux, entre une situation sanitaire quasi hors de contrôle, en tout cas difficile, en côte d'alerte, on va dire, et une campagne de vaccination qui ne va pas assez vite. Comment on gère? Et est-ce qu'il faut, à votre avis, d'autres priorités dans les publics cibles?
Alors, je pense qu'on a loupé deux choses, et je l'avais dit au début de la vaccination. Je pense d'abord qu'il aurait fallu vacciner les soignants en premier, quel que soit l'âge et quels que soient les facteurs de risque.
Il y avait beaucoup d'infirmières ou d'infirmiers qui étaient anti-vaccins.
Non, si on avait... Enfin, c'est toujours facile de revenir en arrière et de dire ce qu'il fallait faire. Mais si on avait dit que la priorité des priorités, c'était de vacciner les soignants, le fait de se mettre en priorité, en tout premier, je pense que ça aurait déjà fait baisser certaines barrières qui ne sont pas forcément contre le vaccin, mais qui sont peut-être aussi contre l'AstraZeneca. C'est ce que j'observe en tout cas autour de moi. Vacciner les soignants en premier, pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'un soignant qui tombe malade, c'est des lits en moins. Et ça, on s'en aperçoit. Un soignant qui tombe malade, il peut transmettre la maladie aux patients. Le Covid-19, c'est la première maladie nosocomiale actuellement en France. Et la deuxième profession, peut-être, où on a loupé le coche dès le départ, c'est les enseignants. C'est vrai que si on voulait vraiment faire une action sur l'école, il fallait vacciner tous les enseignants en premier.
Je vous remercie beaucoup, professeur Frédéric Adnet. Merci d'autant plus que vous démarrez une garde de 24 heures dans les minutes qui viennent.
Merci. Merci.
On va donc vous libérer. On revit la même chose qu'il y a un an, mais avec des patients plus jeunes, vient nous dire Frédéric Adnet. Nous sommes complètement saturés. On va se battre de toutes nos forces pour éviter à l'hôpital français de s'écrouler. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.